Chapitre 3. Le conseil de famille. Le lendemain matin, à 11 heures, les oncles et les tantes vinrent pour tenir conseil. Le feu était allumé dans le grand salon, et la pauvre Madame Taleva, avec l'impression confuse que c'était une circonstance aussi importante que celle des funérailles, sortit les poignées des sonnettes de leurs enveloppes, ôta les épingles des rideaux, en ajusta les plis. Regardant autour d'elle, et secouant tristement la tête à la vue des meubles si bien polis que sœur Paulette elle-même n'aurait pu les accuser de manquer de lustre. Monsieur Deane ne venait pas. Il était absent pour affaires. Mais Madame Deane parut ponctuellement dans son joli cabriolet neuf, conduit par un domestique en livrée. Ce cabriolet qui avait jeté sur le caractère de Madame Deane une clarté si évidente aux yeux de quelques-unes de ses amies de St. Ogg's. M. Deane s'était élevé dans le monde aussi rapidement que M. Taleva était descendu. Et dans la maison de Madame Deane, le linge et la vaisselle d'Hodson commençaient à occuper une position tout à fait en sous-ordre, ne servant plus que de supplément aux articles supérieurs de même genre achetés pendant les dernières années. Ce changement avait occasionné une certaine froideur dans ses rapports fraternels avec Madame Glegg, qui sentait que Suzanne devenait « comme les autres », et que bientôt il ne survivrait plus que peu de choses du véritable esprit d'Hodson, si ce n'est en elle-même, et peut-être chez ses neveux qui soutenaient le nom d'Hodson bien loin, dans les terres patrimoniales des Wolds. Les gens qui demeurent à distance sont naturellement moins fautifs que ceux qui sont immédiatement sous vos yeux. Et il semble superflu, quand on considère la position géographique lointaine des Éthiopiens, et combien peu les Grecs avaient affaire avec eux, de rechercher davantage pourquoi Homère les appelle irréprochables. Madame Deane arriva la première, et quand elle fut assise dans le grand salon, Madame Taleva vint vers elle avec le visage un peu grimaçant, à peu près comme si elle avait pleuré. Ce n'était pas une femme qui pût verser d'abondantes larmes, excepté dans les moments où la crainte de perdre son mobilier devenait plus vive que d'habitude. Mais elle sentait combien ce serait peu convenable de paraître tout à fait calme dans ces circonstances pénibles. « Oh, ma sœur, quel monde que celui-ci » s'écria-t-elle en entrant. « Quel chagrin, hélas !» Madame Deane était une personne aux lèvres minces, faisant dans les occasions particulières de petits discours bien étudiés qu'elle répétait ensuite à son mari en lui demandant si elle n'avait pas parlé très convenablement. « Oui, sœur, » dit-elle d'un ton assuré, « ce monde est changeant, et nous ne savons pas aujourd'hui ce qui peut arriver demain. Mais il est bien d'être préparé à toute chose, et si l'épreuve nous est envoyée, de nous rappeler qu'elle ne l'est pas sans quelque motif. Je suis bien fâché pour vous, et si le docteur ordonne de la geler pour M. Taleva, j'espère que vous me le ferez savoir. Je vous en enverrai volontiers, car il n'est que juste qu'il ait des soins convenables pendant qu'il est malade. Je vous remercie, Suzanne, dit Madame Taleva assez faiblement, et retirant sa main grasse de la main maigre de sa sœur. Mais on n'a pas encore parlé de geler. Puis, après un silence d'un moment, elle ajouta, « Il y a là-haut une douzaine de verres taillés pour la geler. Je n'en mettrai plus jamais dedans. » Sa voix était très agitée en proférant ces derniers mots, mais le bruit des roues détourna ses pensées. Monsieur et Madame Glegg arrivaient et furent immédiatement suivis par Monsieur et Madame Poulut. Cette dernière entra en pleurant, comme moyen succinct d'exprimer, en toute occasion, quelles étaient ses idées sur la vie en général, et ce qu'étaient en abrégé ses opinions sur le cas particulier qui se présentait. Madame Glegg avait mis son tour de cheveux le plus négligé, et des vêtements qui semblaient repris parmi les effets morts de décrépitude. Costume choisi dans le haut but moral d'inspirer une humilité parfaite à Bessie et à ses enfants. « Madame Glegg, ne voulez-vous pas vous approcher du feu ?» lui dit son mari, ne voulant pas prendre la place la plus confortable avant de la lui offrir. « Vous voyez que je suis assise ici, » répondit cette femme supérieure. « Vous pouvez vous rôtir, si cela vous plaît. »« Bien, » dit Monsieur Glegg, en s'asseyant d'un air de bonne humeur. « Et comment va le pauvre homme là-haut ?»« Le docteur Turnbull l'a trouvé beaucoup mieux ce matin, » dit Madame Taleva. « Il a plus de connaissances et m'a parlé. » Mais il n'a pas encore reconnu Tom. Il regarde le pauvre garçon comme si c'était un étranger, quoiqu'il ait dit une fois quelque chose à son sujet et à celui du poney. Le docteur dit que sa mémoire est retournée très en arrière et qu'il ne reconnaît pas Tom parce qu'il pense à lui comme étant petit garçon. Quel malheur, quel malheur! Je suppose que c'est l'eau qui s'est répandue dans son cerveau, dit Madame Poulet en se retournant, après avoir arrangé d'un air mélancolique son chapeau devant la glace du trumeau. C'est beaucoup s'il s'en tire. Et s'il le fait, il sera très probablement dans l'enfance, comme l'a été M. Karl, pauvre homme. On l'a nourri à la cuillère comme si c'eût été un petit enfant pendant 3 ans. Il avait tout à fait perdu l'usage de ses membres, mais il avait une chaise de Bath et quelqu'un pour le traîner. Et c'est ce que probablement vous n'aurez pas, Bessie, je m'en doute. Sœur Poulet, dit Madame Glegg sévèrement, si j'ai bien compris, nous sommes réunis ce matin pour aviser et nous consulter sur ce qu'il y a à faire dans le malheur qui est tombé sur notre famille, et non pour parler de gens qui ne nous appartiennent pas. Monsieur Carr n'est nullement de notre sang et ne s'est jamais, que je sache, allié à notre parenté. Sœur Glegg, dit Madame Poulet d'un ton d'intercession, en remettant ses gants et en remuant les doigts d'une manière agitée, « si vous avez quelque chose d'irrespectueux à dire de Monsieur Carr, je vous prie de ne pas vous adresser à moi. »« Je sais ce qu'il était, » ajouta-t-elle avec un soupir. Sa respiration était si oppressée qu'on aurait pu l'entendre à 2 chambres de distance. « Sophie, dit Madame Glegg d'un ton de dégoût et d'indignation, vous pensez aux maladies des gens jusqu'à ce que cela devienne tout à fait indécent. Mais je vous répète ce que je vous ai déjà dit, c'est que je ne suis pas sorti de chez moi pour parler de vos connaissances, qu'elles aient le souffle court ou long. Si on ne s'est pas réunis pour que chacun entende ce qu'un autre peut avoir à dire pour empêcher une sœur et ses enfants de tomber à la charge de la paroisse, je me retirerai. L'une ne peut pas agir sans l'autre, je suppose. Il ne faut pas s'attendre que ce soit moi qui fasse tout. « Ma foi, Jeanne, dit Madame Poulet, je ne vois pas que vous vous soyez tellement mise en avant pour faire les choses. Autant que je puis le savoir, c'est la première fois que vous venez ici depuis que les huissiers sont dans la maison. Moi, je suis venue hier et j'ai regardé le linge et les affaires de Bessie. Et je lui ai dit que j'achèterais le linge de table à petit point. Je ne pouvais mieux agir. » Car, à l'égard de la théière qu'elle désire ne pas voir sortir de la famille, il tombe sous les sens que je ne saurais que faire de 2 théières. Non pas parce qu'elle a un bec droit, mais quant au damassé à point, je l'ai toujours aimé. Je voudrais que l'on pût s'arranger pour que ma théière, ma porcelaine et mes plus jolies burettes de table ne fussent pas mises à l'enchère, dit Madame Tulliver d'un ton suppliant, de même que les pinces à sucre, la première chose que j'ai achetée. « Mais on ne peut l'empêcher, vous savez, dit M. Glegg. Si quelqu'un de la famille veut les acheter, il le peut, et tout doit être mis à l'enchère. »« Et il ne faut pas s'attendre, dit l'oncle Poulet avec une rare indépendance d'idées, que votre propre famille doive payer les choses plus qu'elles ne valent. Elles peuvent se donner pour une bagatelle aux enchères. »« Ah, ciel, dit Mme Taleva, pensez que ma porcelaine se vende de cette manière. »« Je l'ai achetée quand je me suis mariée. » Justement comme vous l'avez fait, Jeanne et Sophie. Et je sais que vous n'aimiez pas la mienne à cause du filet, mais je l'aimais beaucoup. Il n'y en a jamais eu un morceau de cassé, car je la lavais moi-même. Les tulipes et les roses sur les tasses sont si jolies que tout le monde trouverait du plaisir à les regarder. Vous n'aimeriez pas avoir votre porcelaine se vendre pour une bagatelle et être brisée, quoiqu'il n'y ait point de couleur sur la vôtre, Jeanne. Elle est toute blanche et cannelée, et n'a pas coûté autant que la mienne. Et il y a les burettes, sœur Dean. Je ne puis m'empêcher de penser que vous les aimeriez, car je vous ai entendu dire qu'elles sont jolies. Eh bien, je ne refuse pas d'acheter quelques-unes des meilleures choses, dit Madame Dean d'un ton un peu orgueilleux. Nous pouvons bien supporter quelques superfluités dans notre maison. Les meilleures choses, s'écria Madame Glegg avec une aigreur accrue par son long silence. Cela pousse ma patience à bout de vous entendre toutes parler des meilleures choses et d'acheter celle-ci, celle-là et cette autre, telles que de l'argenterie et de la porcelaine. Il faut amener votre esprit à votre position, Bessie, et ne pas penser à de l'argenterie et à de la porcelaine, mais savoir si vous aurez seulement un lit pour vous coucher et une couverture pour vous couvrir ou une chaise pour vous asseoir. Vous vous rappellerez, si vous en avez, que ce sera parce que vos amis les auront achetés pour vous, car vous dépendez d'eux pour tout. Votre mari est couché là sans espoir et n'a pas au monde un sou qu'il puisse dire à lui. Et c'est pour votre propre bien que je vous dis ceci. car il est juste que vous sachiez quelle est votre situation et quel déshonneur votre mari a jeté sur votre famille, à laquelle vous devez avoir recours pour tout, ce qui doit vous rendre humble d'esprit. » Madame Gleig s'arrêta, car parler avec autant d'énergie pour le bien des autres est naturellement une chose épuisante. Madame Tarleva, toujours tenue en dessous par la prédominance hiérarchique de Sir Jane, qui lui avait fait porter le joug comme cadette dès son plus jeune âge, lui dit d'un ton d'excuse « Je suis sûr, sœur, que je n'ai jamais demandé à personne de rien faire, si ce n'est d'acheter des choses qu'on aurait du plaisir à posséder, afin qu'elles ne fussent pas gâtées dans les maisons étrangères. Je n'ai jamais demandé à personne d'acheter ces choses pour moi et mes enfants, quoi qu'il y ait le linge que j'ai filé. Et je pensais quand Tom vint au monde, ce fut une des premières choses auxquelles je pensais quand il fut couché dans son berceau, que tous les objets que j'avais achetés de mon propre argent et que j'avais si bien soignés lui reviendraient. Mais je n'ai point dit que je voulusse que mes sœurs dépensassent leur argent pour moi. On ne sait pas tout ce que mon mari a fait pour sa sœur, et nous serions dans une meilleure position aujourd'hui s'il n'avait pas prêté de l'argent qu'il n'a jamais redemandé. » « Allons, allons, » dit M. Gleig avec bienveillance, « ne faisons pas les choses trop sombres. Ce qui est fait ne peut se défaire. Nous ferons un arrangement entre nous pour acheter ce qui vous sera suffisant. Quoique, ainsi que le dit Mme Gleig, ce ne doivent être que des choses simples et utiles. Nous ne devons penser qu'à ce qui est nécessaire, une table, une ou deux chaises, de la batterie de cuisine, un bon lit et autre chose de ce genre. Vraiment, j'ai vu un temps où je ne me serais pas reconnu moi-même si je m'étais couché sur des sacs plutôt que sur le plancher. Nous avons une quantité de choses inutiles autour de nous, seulement parce que nous avons de l'argent à dépenser. » Monsieur Gleig dit à sa femme, « Si vous vouliez être assez bon pour me laisser parler au lieu de m'ôter les mots de la bouche. J'allais dire, Bessie, que c'est beau à vous d'affirmer que vous ne nous avez jamais demandé de rien acheter pour vous. Permettez-moi de vous dire que vous auriez dû le faire. Comment, je vous prie, serez-vous pourvu du nécessaire si votre propre famille ne vous aide pas? Sans son secours, vous iriez à la paroisse. Vous devriez savoir cela, le garder dans l'esprit et nous demander humblement de faire ce que nous pouvons pour vous au lieu de dire et de vous en vanter que vous ne nous avez jamais rien demandé. Vous avez parlé des Moss et de ce que M. Tarleva a fait pour eux, dit l'oncle Pullet, qui, contre son habitude, trouvait des idées quand il s'agissait d'avance d'argent. Ne sont-ils pas venus vers vous? Ils devraient faire quelque chose aussi bien que d'autres, et s'il leur a prêté de l'argent, on devrait le leur redemander. « Oui, certainement, » dit Madame Dean, « je pensais le même. Comment se fait-il que Monsieur et Madame Moss ne soient pas ici avec nous? Il n'est que juste qu'ils donnent leur part. » « Oh, vraiment, » dit Madame Tarleva, « je ne leur ai pas fait dire un mot au sujet de Monsieur Tarleva. Et ils demeurent si loin, au milieu de ces sentiers du Basset, qu'ils n'apprennent jamais rien que lorsque Monsieur Moss vient au marché. Mais je n'y ai pas pensé le moins du monde. Je suis étonné que Maggie ne l'ait pas fait pourtant, car elle est toujours si attachée à sa tante Moss. « Pourquoi vos enfants ne sont-ils pas ici, Bessie ?» dit Madame Pullet à la mention de Maggie. « Ils devraient entendre ce que leurs oncles et leurs tantes ont à dire. Et Maggie, puisque c'est moi qui ai payé la moitié de sa pension, devrait penser à sa tante Pullet plus qu'à sa tante Moss. Je puis mourir soudainement en rentrant aujourd'hui à la maison, qui peut le savoir ?»« Si j'avais été la maîtresse, » dit Madame Gleig, les enfants auraient été dans cette chambre dès le commencement. Il serait temps qu'ils sussent à quoi ils doivent s'attendre, et il est juste que quelqu'un leur parle et leur fasse connaître leur position dans le monde et où ils sont descendus, et leur fasse comprendre que s'ils ont à souffrir, c'est par la faute de leur père. « Eh bien, j'irai les chercher, sœur, » dit Madame Tarleva avec résignation. La pauvre femme était tout à fait écrasée maintenant, et ne pensait au trésor de sa chambre de réserve qu'avec le sentiment d'un morne désespoir. Elle monta chercher Tom et Maggie, qui étaient tous deux près de leur père, et elle redescendait lorsque la vue de la porte de cette chambre de dépôt lui suggéra une nouvelle idée. Elle s'y rendit et laissa les enfants descendre seuls au salon. Les tantes et les oncles paraissaient avoir eu une vive discussion quand le frère et la sœur entrèrent, tous deux avec une sorte de répugnance, quoique Tom, avec une sagacité pratique, activé par le vif stimulant des nouvelles émotions qu'il avait éprouvées depuis la veille, eut retourné dans son esprit un plan qu'il avait l'intention de proposer à quelqu'un de ses oncles ou tantes. Mais il ne se sentait nullement porté d'amitié pour eux, et craignait de les rencontrer tous réunis, autant qu'il eût redouté une forte dose d'un breuvage amer à avaler tout d'un coup. Quant à Maggie, elle était plus particulièrement abattue ce matin. Elle s'était levée à 3 heures après un court repos et ressentait cette étrange fatigue somnolente, résultat de fréquentes veilles dans une chambre de malade pendant les froides heures de l'aurore. Fatigue pendant laquelle les scènes de la vie au grand jour semblent n'avoir aucune importance et n'être qu'un cadre pour les scènes passées dans la triste chambre sombre. L'entrée des enfants interrompit la conversation. Le serrement des mains fut une cérémonie mélancolique et silencieuse, jusqu'à ce que l'oncle Poulett dit, lorsque Tom s'approcha de lui, « Eh bien, jeune monsieur, nous venons de parler comme si nous devions avoir besoin de votre encre et de votre plume. Vous devez écrire remarquablement bien maintenant, après un si long temps d'études, je pense. » « Eh, dit l'oncle Glegg avec un ton d'avertissement qu'il pensait être bienveillant, « il nous faut voir le bon résultat de cette instruction, pour laquelle votre père a dépensé tant d'argent. Quand la terre est partie et l'argent dépensé, la science est des plus excellentes. Voici le moment, Tom, de nous montrer le bien de votre éducation. Voyons si vous pourrez réussir mieux que moi qui ai fait fortune sans tout cela. Mais j'ai commencé par me contenter de peu, voyez-vous. Je pouvais vivre d'une assiette de soupe et d'une croûte de pain et de fromage. Et je crains qu'une éducation supérieure et votre genre de vie élégante ne rendent les privations plus pénibles pour vous, jeune homme, que pour moi. » Mais il faut qu'il le fasse, interposa tante Glegg énergiquement, que ce soit pénible ou non. Il n'a pas à considérer cela. Il doit penser qu'il ne peut s'attendre que ses amis l'entretiennent dans l'oisiveté et le luxe. Il faut qu'il porte les fruits de la mauvaise conduite de son père, et qu'il prenne son parti de faire maigre chair et de travailler rudement. Il faut qu'il soit humble et reconnaissant pour ses tantes et ses oncles de ce qu'ils font pour sa mère et son père, qui seraient jetés à la rue et iraient à l'asile des pauvres si nous ne venions à leur aide. Sa sœur aussi, continua Madame Glegg, regardant sévèrement Maggie, qui s'était assise sur le sofa près de sa tante Dean, attirée vers elle par le sentiment que c'était la mère de Lucy, doit se décider à être humble et à travailler, car elle n'aura plus de domestique pour la servir. Elle doit se le rappeler. Elle devra faire le travail de la maison et respecter et aimer ses tantes qui ont tant fait pour elle que d'économiser leur argent pour le laisser à leurs neveux et nièces. Tom se tenait encore debout devant la table au centre du groupe. Il avait de vives couleurs et était bien loin de paraître humble. Il se préparait à dire d'un ton respectueux quelque chose qu'il avait médité auparavant, quand la porte s'ouvrit et que sa mère rentra. La pauvre Madame Tarlever tenait en main un petit plateau sur lequel elle avait posé sa théière d'argent, une tasse comme échantillon, une soucoupe et les pinces à sucre. « Voyez ça, sœur, » dit-elle, en regardant Madame Dean et mettant le plateau sur la table. « J'ai pensé que si vous regardiez encore la théière, il y a longtemps que vous ne l'avez vue, vous en aimeriez peut-être mieux la forme. Elle fait d'excellent thé. Elle a aussi son plateau et tout le reste. Vous pourriez vous en servir tous les jours, ou bien la conserver pour Lucy quand elle se mettra en ménage. « Je serais si fâchée de la voir prendre de ces gens du Lion d'Or, » dit la pauvre femme, le cœur gonflé et les larmes aux yeux, « ma théière que j'ai achetée quand je me suis mariée, et de penser qu'elle sera payée et mise devant les voyageurs ou autres, et mes initiales qui sont dessus. Voyez-la, E.D., et que tout le monde les verra. » « Vraiment, vraiment, » dit tante Poulett, en secouant la tête avec une profonde tristesse, « c'est très désagréable de penser que les initiales de la famille iront un peu partout. Cela ne s'est jamais vu avant. Vous êtes une sœur bien infortunée, Bessie. Mais à quoi servirait d'acheter la théière quand le linge, les cuillères et tout le reste, dont quelques objets ont votre nom tout au long, doivent partir et que de plus elle a ce bec droit ?» « Quant au déshonneur et pour la famille, dit Madame Glegg, on ne peut l'éviter en achetant des théières. Le déshonneur est pour celle de la famille qui a épousé un homme qui l'a conduite à la mendicité. Le déshonneur, c'est qu'on doive les vendre à l'enchère. Nous ne pouvons empêcher le pays de la prendre. » Maggie s'était relevée du sofa à l'allusion faite à son père. Mais Tom vit son mouvement et sa figure enflammée assez à temps pour l'empêcher de parler. « Tiens-toi tranquille, Maggie, » dit-il d'un ton d'autorité en lui touchant l'épaule. C'était une preuve remarquable d'empire sur soi-même et de jugement pratique de la part d'un garçon de 15 ans que lorsque sa tante Glegg eut fini, il se mit à parler d'une manière calme et respectueuse, quoique avec un tremblement dans la voix, car les paroles de cette tante l'avaient blessé au vif. « Alors, ma tante, » dit-il en regardant Madame Glegg en face, « si vous trouvez que ce soit une honte pour la famille que nous soyons dépossédés, ne vaudrait-il pas mieux l'empêcher tout à fait ?»« Et si vous et ma tante Paulette, » continua-t-il en regardant cette dernière, « pensez à nous laisser quelque argent à Maggie et à moi, ne serait-ce pas mieux de le donner à présent et de payer la dette pour laquelle nous sommes expropriés, et éviter ainsi que ma mère ne se sépare de son mobilier ?» Il y eut un silence de quelques instants, car chacun, y compris Maggie, fut étonné de la fermeté soudaine du ton de Tom. L'oncle Glegg fut le premier à parler. « Hé, hé, jeune homme, voyons ça, vous montrez quelques connaissances des choses. Mais il y a l'intérêt dont vous devez vous souvenir. Vos tantes retirent les 5% de leur argent, et elles le perdraient en faisant l'avance. Vous n'avez pas pensé à cela ?»« Je pensais travailler et le payer chaque année, » dit Tom immédiatement. « Je ferai tout pour empêcher que ma mère ne doive renoncer à ses effets. »« Bien, » dit l'oncle Glegg avec admiration. Il avait mis Tom sur la voie sans réfléchir à la possibilité pratique de sa proposition. Mais il avait obtenu le malheureux résultat d'irriter sa femme. « Oui, da, monsieur Glegg, » dit cette dame aigrement et d'un ton sardonique. « C'est un joli ouvrage pour vous que de disposer ainsi de mon argent, dont vous avez prétendu me laisser l'entière jouissance. C'est mon argent qui m'a été donné par mon père, et non par vous, monsieur Glegg. Et je l'ai économisé, et j'y ai chaque année ajouté moi-même quelque chose. Puis il devrait aller se fondre pour racheter le mobilier des autres, et les encourager dans un luxe et une extravagance qu'ils n'ont pas les moyens de soutenir. Et je devrais changer mon testament, ou y faire un codicille, et laisser 200 ou 300 livres de moins en mourant, moi qui ai toujours bien agi et toujours été soigneuse et qui suis l'aînée de la famille. Mon argent devrait se prodiguer pour ceux qui, ayant eu les mêmes chances que moi, n'ont été que vicieux et dissipateurs. Sœur Paulette, vous, vous pouvez faire ce qui vous plaira et laisser votre mari vous reprendre l'argent qu'il vous a donné. Mais ce n'est pas ma manière de voir. Allons, Jane, comme vous prenez feu, dit Madame Paulette. Je suis sûr que vous avez le sang à la tête et qu'il faudra vous saigner. Je suis fâché pour Bessie et pour ses enfants. Je crains de penser terriblement à eux pendant la nuit, car je dors très mal avec mon nouveau remède. Mais il ne sert à rien que je songe à faire quelque chose, si vous ne faites pas la moitié du chemin. Eh bien, il y a ceci à considérer, dit M. Glegg. Il ne servirait à rien de payer cette dette pour sauver le mobilier, quand il y a en arrière toutes les dettes légales qui emporteront le dernier shilling, et plus qu'on ne pourra tirer des terres, d'après ce que j'ai appris du procureur Gore. Nous devons garder notre argent pour faire vivre le pauvre homme, au lieu de l'employer à un mobilier qu'il ne peut ni boire ni manger. Vous êtes si prompte, Jane, comme si je ne savais pas ce qui est raisonnable. Alors parlez en conséquence, monsieur Glegg, dit sa femme lentement et avec emphase, en avançant la tête de son côté et d'une manière significative. L'expression de Tom s'était assombrie pendant cette conversation et sa lèvre tremblait. Mais il était déterminé à ne pas céder. Il voulait se conduire comme un homme. Maggie, au contraire, après sa jouissance momentanée du discours de Tom, était retombée dans son état d'indignation nerveuse. Sa mère s'était tenue debout à côté de Tom depuis sa dernière parole, s'attachant à son bras. Maggie se leva brusquement et se plaça devant eux, les yeux enflammés comme ceux d'une jeune lionne. « Pourquoi venez-vous alors ? » s'écria-t-elle. « Parlez et vous occupez de nous et nous blâmez si vous n'avez pas l'intention de faire quelque chose pour aider ma pauvre mère, votre propre sœur. Si vous ne sentez rien pour elle quand elle est dans l'affliction, et si vous ne voulez rien dépenser de votre argent, lors même que vous ne le perdriez pas, pour la sortir de la peine. Laissez-nous alors, et ne venez pas pour blâmer mon père. Il était meilleur qu'aucun de vous. Il était bon, lui. Il vous aurait secouru si vous aviez été dans l'embarras. Tom et moi n'avons pas besoin de jamais recevoir votre argent, si vous voulez ne pas secourir ma mère. Nous préférons ne pas la voir. Nous saurons nous passer de vous. » Maggie, après avoir de cette manière lancé son défi à ses oncles et à ses tantes, resta immobile, les fixant de ses grands yeux noirs comme prête à supporter toutes les conséquences. Madame Taleva fut effrayée. Il y avait un mauvais présage dans cette folle sortie. Elle ne savait pas comment, après cela, la vie pourrait se continuer. Tom était fâché. Cela ne servait à rien de parler ainsi. La surprise rendit les tantes silencieuses pour quelques instants. Enfin, pour toute réponse à une semblable aberration, les commentaires se présentèrent comme la solution la plus commode. « Vous n'avez pas vu la fin de vos chagrins avec cet enfant, Bessie, » dit Madame Poulet. « Elle surpasse tout pour la hardiesse et l'ingratitude. C'est affreux. J'aurais bien pu éviter de payer sa pension, car elle est pire que jamais. » « Ce n'est rien de plus que ce que j'ai toujours prédit, » continua Madame Glegg. « D'autres peuvent être surpris, mais moi je ne le suis pas. J'ai dit et redit, il y a des années de cela, « remarquez ce que je dis, cet enfant n'arrivera à rien de bon. Il n'y a pas la moindre trace de notre famille en elle. Et quant à lui donner autant d'instructions, je n'en ai jamais rien espéré de bon. J'avais mes raisons quand j'ai refusé de rien payer à cet égard. « Allons, allons, » dit M. Glegg, « ne perdons plus de temps à causer, occupons-nous d'affaires. Tom, maintenant, prenez la plume et l'encrier. » Tandis que M. Glegg parlait, on vit une grande figure noire passer devant la fenêtre. « Tiens, c'est Madame Moss, » dit Madame Taleva. « Les mauvaises nouvelles lui sont donc parvenues ?» Et elle sortit pour ouvrir la porte. Maggie la suivit incontinent. « C'est heureux, » dit Madame Glegg. « Elle pourra approuver la liste des choses à acheter. Ce n'est que juste qu'elle y soit pour sa part, quand c'est pour son propre frère. » Madame Moss était trop agitée pour résister à Madame Taleva, qui l'entraîna machinalement dans le salon, sans réfléchir qu'il était à peine convenable de l'amener au milieu de tant de personnes au premier moment de sa douloureuse arrivée. Cette grande femme usée, aux cheveux noirs, faisait un discordant contraste avec les sœurs Dodson quand elle entra, vêtue d'habillements chétifs, ayant mis à la hâte son chapeau et son châle, et offrant l'absence complète de pensée personnelle, ce qui est le signe d'un chagrin vivement senti. Maggie s'attachait à son bras, et Madame Moss, sans faire attention à nul autre qu'à Tom, auquel elle alla directement et dont elle prit la main, s'écria « Oh, mes pauvres enfants, vous n'avez aucune raison de bien penser de moi. Je suis une triste tante pour vous, car je suis une de celles qui reçoivent tout et ne donnent rien. Comment va mon pauvre frère ?»« Monsieur Turnbull pense qu'il va mieux, » dit Maggie. « Asseyez-vous, tante Gritty, ne vous tourmentez pas. » « Oh, mes chers enfants, je me sens déchiré en deux, » dit Madame Moss, se laissant conduire par Maggie vers le sofa, mais sans paraître encore s'apercevoir de la présence des autres. « Nous devons 300 livres à mon frère, et maintenant il en a besoin, et vous en avez tous besoin, pauvres créatures. Cependant, il faudra que nous soyons expropriés pour les payer. Et il y a aussi mes 8 enfants. Il y en a 8 dont le cadet peut à peine parler. Il me semble que je commets un vol. » Mais il est certain que je n'avais aucune idée que mon frère... » La pauvre femme fut interrompue par un sanglot. « 300 livres ! Oh, mon Dieu !» dit Madame Taleva, qui, lorsqu'elle avait dit que son mari avait fait pour sa sœur des choses qu'on ne savait pas, n'avait aucune somme approximative dans l'esprit, ce qui sentait l'irritation d'une épouse tenue dans l'ignorance. « Quelle folie, certainement !» dit Madame Glegg. « Un homme ayant famille... Il n'avait aucun droit de prêter son argent de cette manière, et sans garantie encore, j'en suis sûr, si on savait la vérité. » La voix de Madame Glegg avait fixé l'attention de Madame Moss, et levant les yeux, elle dit « Si, il y avait une garantie. Mon mari en a donné un billet. Nous ne sommes pas de ces gens qui pourraient voler les enfants de mon frère, et nous avions l'intention de rendre l'argent, quand les temps seraient un peu meilleurs. » « Bien, mais maintenant, » dit M. Glegg avec douceur, « est-ce que votre mari n'a aucun moyen de se procurer cette somme ? Parce que ce serait une petite fortune, presque, pour ces gens, si nous pouvions arranger que Taleva ne fût pas déclarée en faillite. » Votre mari a du bétail. Il serait naturel qu'il se procurât l'argent, ce me semble. Ce n'est pas que je n'en sois pas fâché pour vous, madame Moss. Oh, monsieur, vous ne savez pas quelle malheureuse chance mon mari a eue avec son bétail. La ferme ayant souffert comme jamais, il manque de bétail. Et nous avons vendu tout le froment. Nous sommes en arrière de notre loyer. Ce n'est pas que nous ne voulions faire ce qui est juste. Et je resterais debout à travailler la moitié de la nuit si cela pouvait être bon à quelque chose. Mais il y a tous ces pauvres enfants, et il y en a quatre encore si petits. Ne pleurez pas, tante, ne vous tourmentez pas, chuchota Maggie, qui avait continué à tenir la main de sa tante. Est-ce que M. Taleva vous a remis cet argent en une seule fois? Dit Mme Taleva, encore perdue dans la conception des choses qui s'étaient passées à son insu. Non, en deux fois, dit Mme Moss, en essuyant ses yeux et en faisant un effort pour retenir ses larmes. La dernière fois fut après ma grande maladie, il y a 4 ans, quand tout allait mal, et il y eut un nouveau billet de fait alors. Entre la maladie et la mauvaise chance, je n'ai été qu'un embarras toute ma vie. « Oui, Madame Moss, dit Madame Glegg d'un ton sec, votre famille est très infortunée, et ce n'en est que plus malheureux pour ma sœur. Je suis parti dans la charrette dès que j'ai appris ce qui était arrivé, dit Madame Moss, en regardant Madame Taleva. Je n'aurais jamais autant tardé si vous aviez jugé bon de me prévenir. Et ce n'est point parce que je ne pense qu'à nous-mêmes, et non à mon frère. Seulement, j'avais tellement cet argent dans l'esprit que je n'ai pu m'empêcher d'en parler. Et mon mari et moi désirons faire ce qui est juste, monsieur, dit-elle en regardant Monsieur Glegg, et nous chercherons le moyen de rembourser, advienne que pourra, si c'est tout ce que mon frère peut avoir pour ressources. Nous avons été habitués aux difficultés, et ne nous attendons pas à autre chose. C'est seulement la pensée de mes enfants qui me brise en deux. Mais il faut aussi penser à ceci, Madame Moss, dit Monsieur Glegg, et il est juste de vous en avertir. Si Taleva est déclaré en faillite, et qu'il ait un billet signé de votre mari pour une somme de 300 livres, vous serez obligé de les payer. Les assignations vous arriveront à cet effet. Mon Dieu, dit Madame Taleva, pensant à la banqueroute et pas du tout à l'intérêt que pouvait y avoir Madame Moss. La pauvre Madame Moss elle-même écoutait avec une tremblante soumission, tandis que Maggie regardait Tom d'un air désespéré pour voir s'il avait l'air de comprendre ce nouveau malheur et s'il pensait à la pauvre tante Moss. Tom paraissait seulement réfléchir, les yeux baissés sur le tapis de la table. « Et s'il n'est pas déclaré en faillite, continua M. Glegg, comme je l'ai dit avant, 300 livres seraient une petite fortune pour lui, le pauvre homme. Nous ne savons pas s'il ne sera pas en partie privé de ses facultés, s'il se relèvera jamais. Je suis fâché que ce soit aussi dur pour vous, Madame Moss. » Mais mon opinion est que d'un côté, il est juste que vous vous procuriez l'argent, et que de l'autre, vous serez obligé de le payer. Vous ne penserez pas mal de moi de ce que je vous dis la vérité. Mon oncle, dit Tom, sortant tout d'un coup de sa méditation, je ne pense pas qu'il fût juste que ma tante Moss payât cet argent. Si ce n'était pas l'intention de mon père, le serait-ce? Monsieur Glegg parut surpris quelques instants avant de répondre. Peut-être que non, Tom. Mais alors il aurait détruit le billet, vous savez. Il nous faut rechercher ce billet. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce fut contre sa volonté? C'est que, dit Tom en rougissant, mais essayant de parler avec fermeté, malgré une crainte juvénile, je me rappelle parfaitement bien qu'avant d'aller en pension chez M. Stelling, mon père me dit un soir, que nous étions assis ensemble près du feu et que personne d'autre n'était dans la chambre. Tom hésita un peu, puis continua. Il me dit quelque chose au sujet de Maggie. Puis, après, il ajouta, « J'ai toujours été bon pour ma sœur, quoiqu'elle se soit mariée contre ma volonté. J'ai prêté de l'argent à Moss, mais je ne penserai jamais à le mettre dans la détresse pour le rembourser. Je préférerais le perdre. Mes enfants ne doivent pas s'inquiéter s'ils sont plus pauvres à cause de cela. Et maintenant que mon père est malade et n'est pas en état de parler lui-même, je n'aimerais pas que l'on fît quelque chose de contraire à sa volonté. Bien, mais alors, mon garçon, dit l'oncle Glegg, dont les bons sentiments l'entraînaient à suivre le désir de Tom, mais qui ne pouvait tout d'un coup se secouer de son horreur habituelle contre une négligence telle que de détruire des garanties ou d'aliéner quelque chose d'assez important pour faire une différence appréciable dans la fortune d'un homme, Il nous faudrait nous débarrasser du billet, vous savez, si nous voulons nous tenir en garde contre ce qui pourrait arriver, en supposant que votre père soit déclaré en faillite. » Monsieur Glegg interrompit sa femme avec sévérité. « Faites attention à ce que vous dites. Vous vous ingérez bien avant dans les affaires des autres. Si vous parlez imprudemment, ne dites pas que c'est ma faute. » « C'est une chose que je n'ai jamais entendue avant, » dit l'oncle Poulet, qui s'était dépêché d'avaler sa pastille pour exprimer son étonnement. « Détruire un billet. Je crois que qui que ce fût pourrait vous faire poursuivre par la justice pour cela. »« Bien, » dit Madame Taleva, « mais si ce billet vaut tout cet argent, pourquoi ne pouvons-nous pas le changer et empêcher la perte de mes effets ? Nous ne sommes point appelés à intervenir entre ton père et ta tante Moss, Tom, si tu penses que ton père soit fâché quand il sera rétabli. » Madame Taleva n'avait pas étudié la question de l'échange et dirigeait ses calculs d'après des idées à elle sur le sujet. « Bah, 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 vous autres femmes n'entendez rien à ces choses-là, » dit l'oncle Glegg. « Il n'y a pas d'autre moyen de préserver M. et Mme Moss que de détruire le billet. » « Alors, j'espère que vous m'aiderez à le faire, mon oncle, » dit Tom avec vivacité. « Si mon père devait ne pas guérir, je serais bien malheureux de penser qu'on eût fait contre sa volonté une chose que j'aurais pu empêcher. Et je suis sûr qu'il avait l'intention que je n'oubliasse pas ce qu'il me dit ce soir-là. Je dois obéir au désir de mon père à l'égard de ce qui lui appartient. » Même Madame Glegg ne put refuser son approbation aux paroles de Tom. Elle sentait que le sang d'Hodson parlait certainement en lui. Quoique si son père eût été un Hodson, cette mauvaise perte d'argent n'aurait jamais eu lieu. Maggie aurait pu à grand-peine se retenir de se jeter au cou de son frère, si sa tante Moss ne l'en eût empêchée, en se levant elle-même et en prenant la main de Tom, auquel elle dit d'une voix presque étouffée, « Vous n'en serez jamais plus pauvre pour cela, mon cher garçon, s'il y a un Dieu en haut. Si cet argent est nécessaire pour votre père, Moss et moi nous le paierons, la même chose que s'il existait une garantie. Nous ferons ce que nous voudrions qu'on nous fît, car si mes enfants n'ont pas d'autre avantage, ils ont au moins un père et une mère qui sont honnêtes. » « Bien, » dit M. Glegg, qui avait médité les paroles de Tom, « nous ne ferions aucun tort aux créanciers en supposant que votre père fît faillite. J'y ai réfléchi, car j'ai été créancier moi-même et j'ai vu des tromperies sans fin. S'il désirait donner l'argent à votre tante, avant qu'il fût entré dans cette triste affaire de procès, c'est la même chose que s'il avait détruit lui-même le billet, car il s'était décidé à être plus pauvre de cette somme. « Mais il y a une quantité de choses à considérer, jeune homme, » ajouta M. Glegg en regardant Tom d'un air d'avertissement, « quand on en vient aux affaires d'argent, et on peut prendre le dîner d'un homme pour faire le déjeuner d'un autre. Vous ne comprenez pas cela, je suppose. » « Si, je le comprends, » dit Tom avec assurance. « Je sais que si je dois de l'argent à un homme, je n'ai aucun droit de le donner à un autre. Mais si mon père était décidé à donner cet argent à ma tante, avant d'avoir des dettes, il avait le droit de le faire. » Bien répondu, jeune homme, je ne vous croyais pas si avisé, dit l'oncle Glegg avec beaucoup de candeur. Mais peut-être que votre père n'a pas détruit le billet. Allons voir si nous pouvons le trouver dans le coffre. Il est dans la chambre de mon père. Allons-y aussi, tante Gritty, dit Maggie à voix basse.